masque et la plume.
Le masque et la plume.
Amigos and friends, I'm pressing pause with a thought to send. You see, I'm shaking up, breaking up for a bet. I'm the brand man, clapping a jump of intellect like a survivor.
Eh bien, salut les amis, amici, amigos and friends. C'est le masque et la plume. Donc, émission numéro 1. Du masque et de la plume, on va parler, échanger, tchatcher, discuter, donner nos avis, uniquement nos avis, hein, nos avis personnels, sur l'actualité culturelle à Marseille. Alors, le masque et de la plume, aujourd'hui, pour cette émission numéro 1, c'est avec Momo Riz Vincent. Salut Maurice.
Salut.
Ça va, on t'a sorti de ta boîte à répétition là.
Oui, le matin c'est encore possible, l'après-midi je ne suis plus disponible.
D'accord, ben, on a bien fait d'être là ce matin à 10h. Avec à ma gauche aussi, Fran, Sois Pécœur. Salut François.
Et bonjour.
Alors, où se situe exactement le point de bascule?
Il se situe au point de bascule.
Merveilleux.
Donc voilà. Il est en train de basculer, d'ailleurs.
Renseigné. Il est en train de basculer, paraît-il.
Pas forcément du bon côté, mais bon.
Aïe, aïe, aïe. Bon, eh bien, peut-être qu'à l'occasion, tu nous en diras autre chose. Hein, on parle un peu des lieux aussi sur Marseille. Et Dja-Dja, Lee, Papéji, Yeba, salut.
Salut Papéji. Salut aussi. Ouais, moi aussi, je te remercie de nous avoir fait ça ce matin, parce que moi aussi, l'après-midi, je suis en répétition et difficile de se libérer. Et ça nous fait lever un peu tôt, c'est bien.
Voilà. Et puis, tu sors ton album aussi, là.
Oui, tout à fait. Je sors un album avec l'homme qu'on appelle Rit, multi-instrumentiste homme orchestre marseillais et bien connu depuis déjà un moment et très talentueux. Nous sortons un disque le 18 octobre. Voilà. Et on est un peu partout en tournée et en répétition. Et le 20 octobre, à la Fiesta.
À la Fiesta, hein, voilà, la Fiesta du Sud aussi.
Prochaine émission.
Espérons.
Bah ouais, pourquoi pas. Et puis aussi, à ma droite, Fifi. Philippe Foulquier. Salut Philippe, ça va?
Ça va très bien, oui, surtout le matin.
Ouais, ben bah, le matin, je vois que ça vous pose problème à tous.
À part
Maurice.
Non.
Bon, on va pouvoir quand même discuter un peu de théâtre, de cinéma, de livres. Philippe aussi, t'as été réunion hier sur Marseille 2013.
Oui.
Oui, François aussi. Alors, comment ça se présente, ce Marseille?
On pourrait avoir envie de le chroniquer ou donner notre avis aussi, comme si c'était un spectacle. On va peut-être pas commencer par ça. Moi, j'ai trouvé que c'était pas un bon spectacle du tout. Scénario assez faible. Quelques belles réparties qui mériteraient de rentrer dans les annales. Pas mal. Notamment, c'est choquant, mais c'est pas gênant. On a entendu, qui est une autre variété de coupable mais pas responsable, responsable mais pas coupable. On a entendu des choses comme ça pas mal, mais dans l'ensemble, mauvais spectacle.
Mauvais spectacle, bon, eh bien, Philippe, qu'est-ce que tu veux dire, quelque chose là-dessus?
Oh ben, je crois que la question, faut-il croire encore, Marseille 13 n'a pas été élevée. La question, c'était, il y avait trois politiques qui défendaient ce qu'ils représentaient, et donc, je trouve qu'ils n'étaient pas particulièrement... bon, mais pas effroyable. J'ai même trouvé Muselier plutôt habile. Par ailleurs, moi, je suis intervenu, parce que la vraie question que j'avais envie de poser, c'est est-ce qu'on peut être une capitale culturelle quand on réduit les budgets des permanents, quoi.
Équipements et des personnes en place déjà sur Marseille, c'est ça que tu veux
dire? Alors, moi, je dis pour l'instant, ils m'ont dit non. Je dis oui, mais enfin, il y a plein de rumeurs, et un peu plus même, qui annoncent des réductions. Alors, donc, est-ce qu'on peut être culturel, capital culturel dans ces conditions?
Oui, et enfin,
alors, du coup, ils sont tous engagés. Tous engagés en disant on n'augmente pas, mais on maintient.
Ouais, les lieux se fermer, les lieux se plaindre de, effectivement, baisse de financement, les artistes. se plaignent aussi. Enfin,
bah, quand tu penses que Montevideo va plus pouvoir recevoir de public, ouais, c'est quand même assez inquiétant tout ça. Quoi.
C'est un peu comme l'histoire de Romanes. C'est-à-dire qu'il y a une raison objective, c'est qu'il y a des travaux qu'ils n'ont pas pu faire et ils ont vraiment, c'est les commissions de sécurité qui ont imposé à Montevideo, au-delà des problèmes financiers que rencontre Montevideo, il y a ce problème technique qu'ils n'ont pas les moyens de résoudre. Quoi. Mmh. Bon, c'est Romanes, c'est pareil, Besson, il a beau jeu là, il y a un vrai conflit du travail, quoi.
Bien, après cette introduction un petit peu triste sur Marseille 2013 et l'avenir immédiat, le sommaire du...
C'est pas très
enthousiasmant, quoi.
On constate que les politiques n'arrivent pas à s'entendre sur ce projet pour en faire une dynamique partagée territorialement. On constate que les politiques veulent surtout pas se mouiller dans la programmation, ce qu'on peut ne pas regretter. Et on constate que ça continue comme avant, quoi. Il n'y a pas de révélation ni de...
Oui, et puis ça, moi je trouve que ça aggrave une situation, c'est que le fait que les politiques ne soient pas d'accord et ne se mobilisent pas de façon dynamique sur le projet donne une carte blanche, disons, à l'association, et que je redoute un peu que l'association, à cause de ça, devienne une sorte de sur-opérateur ce qui est déjà le cas par rapport aux opérateurs régionaux et locaux.
Alors, dans le fait de nous faire déposer des dossiers, un peu comme dans une urne de candidature, alors qu'on est tous des opérateurs qui ont créé des choses qui ne s'arrêtent pas à la limite de Marseille, je veux dire, que ce soit la friche, que ce soit même les lieux avec des ambitions moindres parce qu'ils sont de plus petite taille. Ici, il y a une vie artistique formidable à Marseille et elle est totalement méprisée. Et ça, elle n'est pas méprisée ouvertement, elle n'est pas considérée, disons.
Oui, elle est mise sur la touche, quoi. Voilà. Elle est laissée de côté.
Alors, c'est comme des experts qui viennent nous expliquer ce qu'on doit faire. Alors, je ne sais pas.
Peut-être c'est parce que, mon point de vue, il vaut ce qu'il vaut. Moi, en tant qu'artiste, je dis comme Philippe, ça fait 25 ans que je suis sur le métier, et je ne vois pas quel dossier j'ai à déposer. Et on devrait me dire, chante et tais-toi. Je veux dire, ça devrait suffire. Mais... Se trouve que, pour dire ça à un artiste ou à un opérateur, ou déléguer à quelqu'un une mission en venant le chercher, il faut avoir une vision du projet déjà. Et il me semble que le problème est que l'association, les politiques et les gens décisionnaires de Marseille 2013 ne se sont pas mis en mode vision, c'est-à-dire ils sont incapables de te raconter, voilà, on est en 2013, on est dans Marseille, on se balade et je vois ça, et j'entends ça et je ressens ça. Tant qu'on n'a pas fait ça, on peut pas solliciter en disant, tiens, comme j'ai cette vision, cette partie-là, je vais demander à un tel de la réaliser, à une telle de me donner des idées ou de m'apporter des solutions. Et à ce moment-là, on travaille, mais on paye les gens, ne serait-ce que pour réfléchir. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Je crois qu'il ne faut pas phagocyter l'émission avec ce sujet.
Alors, merci. Alors, le sommaire un petit peu compliqué à établir, parce que la programmation au théâtre n'a pas véritablement commencé. Les films au cinéma à Marseille ne restent pas très très longtemps à l'affiche. Et les livres ont un peu de mal à arriver en librairie. J'ai du mal à commander les livres qu'on avait choisis en préparant l'émission. Donc on va faire des rubriques.
Loin de la capitale, tu sais. On est loin de la capitale.
C'est pour ça. Oui, effectivement. Donc je vais faire des rubriques cinéma. Je vais dire les titres qu'on avait un petit peu choisis. Si on est au moins deux à avoir vu, on peut échanger. S'il y en a qu'un qui a vu, il dira un ou deux mots sur la question. D'accord? C'est parti, le masque et la plus plume. Allez, cinéma. Cinéma, alors on avait programmé Hors la loi, de Rachid Bouchareb. Qui a vu Hors la loi? On est plusieurs à l'avoir vu là.
Moi je suis allé le voir, oui. Je suis allé le voir, oui, effectivement.
On avait programmé Submarino de Thomas Vinterberg. Là, il n'est déjà plus à l'affiche.
Non.
Moi je l'ai vu, c'était magnifique, mais il n'est plus à l'affiche. Housemaid de Ham Sang-soo, un film coréen aussi.
Moi j'ai vu.
Philippe l'a vu. Et Notre jour viendra, Romain Gavras. Alors ça, je crois que personne ne l'a vu. Celui-là, il est resté une semaine à l'affiche. Peut-être que c'était
pas terrible.
Alors, Hors la loi.
Il a été mal accueilli par la critique. Je veux dire, très souvent, un peu tiède. La critique est tiède sur le film. Je me suis un peu intéressé à ça. En ce qui me concerne, je ne suis pas ressorti bouleversé du cinéma, véritablement. Mis à part, effectivement, que le talent des acteurs, Jamel Debbouze, est vraiment prend une dimension importante, je pense, dans ce métier. Tous les autres, ça joue très juste, c'est très beau, c'est très poignant, mais je n'ai rien appris vraiment, quoi.
Alors, après, tu peux nous dire deux mots sur le sujet du film, quand même.
Alors, le sujet, c'est on part d'une famille dans les années 20 qui est chassée de sa terre, et donc, à cause, parce qu'un colon vient d'acheter ce terrain. Et que,
qui s'appelle Guérini.
Voilà, c'est ça.
Ah bon, le colon s'appelle Guérini.
et qui, évidemment, ben voilà, le caïd vient et dit à cette famille, et des deux gendarmes, il faut dégager. Et donc, ils s'en vont, ils vont vivre à Sétif. Et effectivement, on les retrouve quelques années après où Abdelkader, un des frères, est donc militant, il est dans la rue, à la manif, et puis il y a le massacre, le fameux massacre de Sétif. Alors je ne sais pas s'il a été dans ces proportions-là, mais c'est horrible. Comme on ne nous en a jamais parlé à l'école, on ne sait pas. Comme on ne nous montre rien à la télé, on ne sait pas. C'est décrit comme vraiment un massacre sans nom, des centaines de personnes.
Je crois que c'est objectif.
Il est possible, oui. En tout cas, ça fait froid dans le dos, c'est sûr. Et toute l'histoire part de ça, quoi, de cette haine qui vient de là, et de ces trois frères qui décident, bien sûr, de deux frères en tout cas, qui décident, un qui va en prison, et puis le dernier qui prend sa mère et qui va vivre à Paris, et la galère commence à Paris. Un beau jour, les frères se retrouvent là, et puis ils n'ont qu'une solution, c'est d'être rentrés dans la clandestinité, l'un pour gagner sa vie, en devenant un peu un maquereau et un organisateur de concours de boxe, et un autre qui rentre petit à petit dans la clandestinité auprès du FLN, et le troisième qui revient de l'armée, qui est un peu assujetti à son frère et qui rentre aussi dans la lutte armée du FLN. Et c'est toute une histoire qui est classique finalement dans le cas de résistance, où on montre comment ils s'organisent et comment ils essayent de défendre leur cause. Moi, ce que j'en ai retenu, et ce que je crois qui était un petit peu le message du film, c'est de montrer qu'effectivement, malheureusement, dans ces cas-là, les révolutionnaires n'ont principalement, dans un premier temps, exercent des pressions sur leur propre communauté, en vérité. Et c'est toujours le cas.
Ouais, c'est vrai.
C'est toujours le cas, évidemment. C'était le cas pendant la guerre, c'était le cas au Pays Basque, c'était le cas de partout, où quand on veut faire une révolution, il faut de l'impôt révolutionnaire, il faut forcer les gens à payer. Et puis le pouvoir en place essaye de faire peur à la population pour que les révolutionnaires ne soient pas aidés. C'est le cas en Afghanistan aussi, ainsi de suite. Et fatalement, les révolutionnaires sont obligés d'être encore plus pressants sur la communauté, de leur faire encore plus peur pour continuer à être aidés, et c'est ce cercle vicieux de gens qui sont réprimés par eux-mêmes et par les autres, et donc pris en tampon, une population quelque part prise en tampon entre un groupe révolutionnaire qui va vers sa lutte et évidemment l'oppresseur, le pouvoir en place qui veut garder son pouvoir et qui presse de l'autre côté. Et c'est ce drame de ces populations prises en tenaille, je crois, qui est montré dans ce film. C'est ça que j'en ai retenu, moi.
C'est très bien vu, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi, là, ce principe de révolutionnaire, où on s'en prend d'abord aux siens pour mener.
C'est un cercle vicieux qui est logique et implacable. Et c'est ça qui est très triste, quoi, en fait, dans ces cas-là. Et l'autre côté, qui est encore plus grave, c'est quand on voit les politiques qui arrivent, qui seront ceux qui prendront le pouvoir en 62 et qui l'ont toujours, et qui sacrifient. Oui, il faut faire cette manifestation. Il va y avoir des morts, c'est pas grave. Ça va influencer l'opinion internationale. C'est encore le cas avec les Palestiniens aujourd'hui.
Ouais, ça servira à notre cause.
Et ouais, c'est cette espèce de fatalité horrible avec laquelle on ne pourra jamais rompre, visiblement, quand on est dans ce genre de lutte, quoi.
François.
Moi, je suis sorti de ce film un petit peu mal à l'aise, je dirais.
Oui, ça oui.
Mal à l'aise, mais alors pour une raison assez particulière, c'est que moi je trouve que c'est un film comme on en a besoin aujourd'hui, parce que chaque fois qu'on évoque une page de l'histoire qui est mal connue, en plus des pages assez sombres, et que, comme tu le disais, c'est les genres de choses qu'on n'apprend pas à l'école, il y a un besoin d'avoir de l'éclairage là-dessus.
Il y a tellement de tabous.
Voilà. Moi, je suis mal à l'aise pour une chose, c'est que je me dis qu'il y a malheureusement trop de gens qui vont sortir de ce film en ayant appris quelque chose. c'est très dérangeant parce que cette information là, pas dans le détail, mais en gros que c'est une sale page d'histoire de la France. L'information, elle est disponible. En gros, ça fait longtemps qu'on le sait. Il y a eu des livres, il y a eu des articles de journaux, il y a eu des émissions. On est censé le savoir. Donc, ça veut dire que si on apprend quelque chose aujourd'hui, là, je dirais si on, c'est plutôt pas la jeune génération qui elle a une excuse parce qu'on lui a pas appris, mais au-dessus de la jeune génération, on veut dire c'est gênant parce que je pensais à une chose, c'est il y a des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Là, on parle de la retraite, des mouvements autour de la retraite, etc. J'imaginais un instant qu'il y ait un réalisateur qui se dévoue dans 10-20 ans pour faire un film là-dessus, sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, notamment sur l'arnaque du calcul qui mène au fait que la retraite, le régime des retraites va être réformé, et qu'il y a des gens qui vont être surpris dans 20 ans. Parce qu'ils n'étaient pas au courant. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de le vivre, cette chose-là, et que l'info est disponible. Elle est disponible. Donc, moi, ça me dérange, cette espèce de truc qu'il faille 20 ans pour comprendre ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. En gros, et c'est une pierre de plus dans la vilaine mare du manque de curiosité ambiante actuelle.
Mais quand tu dis apprendre quelque chose à propos du film, tu parles de quoi ?
Ben de ce qui s'est passé.
Sur le massacre de la manif, le jour de la libération.
Voilà, la réalité du FNL, etc. Comment c'est arrivé ? Quels étaient leurs propos ? Quelles étaient leurs actions, etc. Y a, la majorité des gens, je pense, ont une information qui est très parcellaire par rapport à ça.
Oui, parce qu'en fait, la première revendication n'était pas une revendication d'indépendance, véritablement, c'est une revendication d'égalité des droits. Ils voulaient être des Français comme tout le monde, c'est tout. À la limite, c'était d'abord ça, et puis surtout, le droit de disposer aussi de leur propre système à l'intérieur même, éventuellement, de l'Empire français. Dans un premier temps, ça a été ça, mais après, quand on a commencé à tirer sur les gens, évidemment, après...
Ce film, d'après vous, suscite autant de réactions d'un côté ou de l'autre, du côté des nationalistes, comme du côté... des nationalistes français, j'entends, hein, comme du côté des Algériens
On les appelle pas des nationalistes, on les appelle des Front National, soyons sérieux.
Mais c'est pas uniquement les gens du Front National, pas uniquement. Hein.
Attends, moi je suis allé voir le film parce qu'on m'a appelé, on m'a dit il y a une manif du Front National contre la présentation par la région du film et on essaye de monter rapidement une contre-manif. Bon, donc je suis allé au cinéma pour ça. J'ai vu qu'ils étaient 150 à tout casser et toutes les télés en ont parlé.
Bien sûr.
Beaucoup plus que la manif qu'il y avait samedi dernier pour empêcher une vieille chinoise de faire expulser de la rue de la République, où ils étaient beaucoup plus nombreux, il n'y avait pas de télé. Alors déjà. Ensuite, les gens qui étaient là, ils étaient là parce que les élus du Front National au Conseil Régional les avaient convoqués parce que c'était une organisée par la région. Parce que c'est un film financé par la région, dont sont le cadre de ces commissions. Bon. Donc c'était des militants du Front qui étaient là. Et ils étaient, un, très vieux, et deux, pas très nombreux. Et tout d'un coup, il y a tout ce foin pour 150 personnes. Quoi. Bon, ça c'est une première chose. Donc je suis allé voir le film dans ces conditions. Et que ces gens-là soient irrités parce qu'on leur dit ce que tout le monde sait dans le monde entier, qu'il y a eu une cinquantaine de milliers de personnes assassinées à Sétif en 45, le jour de la signature de l'armistice.
Ils remettent en question ça, quoi.
Ce qu'ils remettent en question, c'est que le film soit financé par la région. Film anti-français que ne doit pas financer la région. Voilà, c'était l'argument. Bon. Mais l'histoire, ils s'en foutent. Quand t'es au Front National, l'histoire, tu t'en fous, tu l'arranges à ta sauce.
Bien sûr.
Comme quand t'es stalinien, tu l'arranges à ta sauce, l'histoire. Mmh. Bon, premier truc. Deuxième truc sur le film lui-même. D'abord, c'est un film financé par l'Algérie aussi. Mmh. Et ensuite, il y a des héros du FLN, qui s'appelaient Boudiaf, par exemple, qui ont été assassinés par la suite, et quelques autres qui étaient déjà dans le rang du FLN et qui ont pris le pouvoir en Algérie, qui en ont été chassés, qui sont revenus pour être assassinés. Bon, donc il n'y a pas que des Noirs du côté du FLN et du reste. C'est une histoire très complexe, comme toutes les histoires de résistance. Il y a Brecht qui a raconté ça dans le cercle de Cré. je sais plus, il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire de l'art, de la littérature, du cinéma, où on raconte la complexité de la lutte clandestine. Or, c'est surtout la complexité de la lutte clandestine, beaucoup plus que le rapport aux Français. Ceux qui fondent, moi, j'ai failli sortir pour aller leur dire à ces vieux cons, bande de cons, allez voir le film avant de râler, vous apercevrez que vous n'avez pas tellement de raison. Bon, parce que ce qui est l'enjeu du film, c'est comment... C'est l'histoire du FLN, en fait. Dans le contexte, évidemment, extrêmement complexe de la lutte révolutionnaire, de la lutte d'émancipation de l'Algérie, née d'un désir d'égalité, quand même, ce qui est au fronton des mairies, et qui a abouti à l'indépendance. Bon, que cette lutte, elle est passée par ce qui passe dans la clandestinité. Au maquis, il y en a eu plein, des histoires comme ça, oui, qui n'ont pas eu cette dimension, peut-être. Là, ça, bon, alors bien sûr, ça se passe dans un bidonville à Nanterre. Le bidonville à Nanterre, il y a longtemps qu'on en a parlé, avant le FLN. Bon. Et puis, je veux dire que les faits de ces tifs, ils sont avérés. Quant à savoir s'ils sont disponibles, excuse-moi, la bataille d'Alger de Pontecorvo, 30 ans avant d'être autorisée. Le film de 20 ans dans les Aurès, je ne sais plus combien de temps. Alors, attends, le pouvoir en France a retenu. Bon, moi, j'ai un ami qui s'appelle Bruno Beuglin. Son père, il avait choisi, il soutenait le FLN tellement bien qu'il a été obligé de partir. C'était un compagnon de Roger Planchon. Il a été obligé de partir en Algérie. Et il était cofondateur du théâtre national d'Alger, d'ailleurs. Bon, lui, il a dû attendre que les généraux fachos soient amnistiés pour pouvoir rentrer en France. Je veux dire, c'est notre histoire et la manière dont elle est manipulée. Alors, que ce film remue un peu ça et que ça fasse pas bien, je veux bien. Mais c'est l'histoire réelle. Alors, ceci dit, d'un point de vue strictement cinématographique, c'est pas un très grand film.
Non, voilà.
Je crois même que le précédent était bien. Comment c'était
Indigène
était à un autre niveau. Ouais, ouais. Alors, je crois qu'il est plus. Je crois qu'en tant que cinéaste, il sait mieux filmer les bagarres. Les bagarres militaires ou pas, les scènes avec beaucoup de monde, que les scènes un peu plus psychologiques, quoi. Là, il est pas bon.
Certes. En plus, je veux dire, dans le film, il y a quelque part apparaît une critique évidente du frère Abdelkader, qui est vraiment lui le dogme, pas fanatique, mais pas loin. Et quelque part, on montre aussi l'absurdité qui arrive dans ces luttes où par exemple, il interdit à son frère d'organiser et d'envoyer un boxeur algérien d'origine algérienne au championnat de France. C'est pour nous, ça nous paraît un peu ridicule, cette attitude. Et d'ailleurs, Saïd, enfin, le personnage que joue Jamel Debbouze, est complètement... Il dit, mais vous êtes fou, vous mélangez tout. Je veux dire, il n'y a pas qu'une attitude béate face au FLN.
C'est le racisme à rebours.
Voilà, c'est le racisme à rebours. De plus, je signale que le seul Français qui est tué dans ce film, c'est un flic tortionnaire. Et le reste du temps, ils ne font pratiquement que des victimes algériennes, qui, des traîtres, toute cette chasse aux sorcières qui se passe et qui malheureusement est inhérente à cette situation. Le film, c'est un drame, je veux dire, à l'intérieur de cette communauté déjà.
Oui, je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu une interview de Bouchareb et je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit parce que, en gros, je schématise, il dit que même s'il a un point de vue partisan dans son film, après tout, pourquoi pas, pour qu'on arrive à voir clair dans cette histoire, il faut que chacun puisse dire de l'endroit où il est, comment il conçoit l'histoire. Il dit qu'il n'empêche pas les autres de le dire autrement, mais que lui, il a envie de le dire comme ça, quoi.
Il demande qu'on en débatte.
Oui, c'est ça.
Qu'on en parle. Oui, moi je suis un petit peu choqué par sa mise en scène et son film parce que François, tu disais qu'on a besoin de ce genre de film. Moi, ça m'inquiète, ce genre de film, parce que je suis allé le voir à Plan de Campagne un dimanche soir. La salle était pleine. Bon, je vous décris pas le ciné de Plan de Campagne, c'est une horreur. Hein. C'est on vient bouffer du cinéma. Ça fait longtemps que j'y allais plus.
C'est un peu corné du cinéma.
Ouais. Et la salle était très bien fréquentée et beaucoup de jeunes. Alors ça commentait tout le long, donc j'ai compris essentiellement algérien, mais aussi marocain, etc. Et au fil du film, puisque ça commentait, je m'inquiétais, j'étais angoissé parce que c'était plein de haine. Alors, Philippe, tu nous dis, les gars du Front National, moi ce que j'appelle les nationalistes français, sont pleins de haine et de rancœur. Les jeunes arabes qui connaissent pas l'histoire et qui la découvrent avec ce film, ils ne peuvent sortir de là qu'avec de la haine et de la rancœur. Oui. Dès que après le premier manif, le premier carnage, dès qu'il y a le premier Algérien qui tue un militaire français, la salle a réagi. Ouais. Mm-hmm. Et moi, ça m'a donné des frissons.
Mais Roger, c'est comme
caricature. Bien sûr.
Au stade, pourquoi ils le sifflent ce drapeau? Parce que ce drapeau ne respecte pas ses principales. Liberté, mais, égalité, fraternité.
Je suis entièrement d'accord sur ce point-là.
C'est ça qui siffle. Ce qui siffle, c'est pas le drapeau, c'est pas la nation française, c'est pas les Français. Ce qui siffle, c'est
le comportement,
les trahisons de ces principes.
Mais sur le fond, je suis entièrement d'accord. Là, je parle d'un point de vue d'utilité d'un film comme ça, d'un point de vue cinématographique. Toute la mise en scène et personnages, c'est des stéréotypes tout le temps. Moi, je trouve ça dangereux de découvrir un fait historique, une histoire pour des minots, des jeunes, parce que c'était très jeune la salle, par ce genre de film ultra violent, ultra partisan, et qui ne peut entraîner qu'une séparation encore des communautés.
Oui, tu as raison.
Et susciter la haine.
Tu as raison, mais ça, c'est aussi la preuve que la jeunesse, qu'elle soit d'origine algérienne ou de souche française, n'a pas reçu une information suffisante sur son histoire, sur l'histoire de la France. Ça prouve simplement ça.
Si ça peut choquer, c'est exactement ce genre d'argument qui justifie la censure. C'est le même type. Hein.
Où on va censurer parce que ça choque. Ben oui,
voilà.
D'accord.
Et à la fois, je disais, la critique est assez tiède. Hein, c'est-à-dire que, dans le meilleur des cas, on n'en parle presque pas de ce film. Quand je vais voir un peu partout sur le net, sur 4 étoiles, il y en a rarement plus de 2 en général, sur les classements. Et ça permet un peu d'évacuer la question. Et que les journalistes ne s'y penchent pas vraiment dessus parce qu'ils ont peur de s'engager. Ils ont peur d'un contrôle fiscal le lendemain. Ou un truc comme ça. Et donc, même Marianne, j'ai l'impression, ne dit rien. Il vaut mieux l'ignorer et dire que c'est un mauvais film du point de vue cinématographique et ça enterre le chien et la rage avec.
Ça, c'est sûr. Oui, tu as raison. C'est possible, effectivement, le sujet mérite à être discuté.
Absolument. Alors, peut-être dans d'autres cercles que ceux des cinémas populaires, mais il ne faut pas qu'il reste non plus dans des cinémas d'art et d'essai.
J'ai regretté à la fin parce que j'étais un peu démoralisé. J'aurais dû aller trouver quelques jeunes, ceux qui étaient derrière moi, qui n'arrêtaient pas de commenter, qui suivaient le film. J'aurais bien voulu avoir leur avis.
Fallait le faire.
Bon, allez, des regrets, on passe.
D'autant que le film tourne quand même. Par exemple, le 21 octobre 61, il y a le matraquage, mais surjoué dans le couloir du métro. Je veux dire, c'est encore une grande période d'assassinat de Papon, tiens. D'Algériens à Paris, qui a été masqué. Bon,
surjoué, non, ils retiennent les coups, hein, je trouve, quand même. Dans André, ils ne les retiennent pas comme ça.
André,
ils surjouent plus les CRS encore. Hein.
Non, mais...
Philippe, tu conclus, on va passer...
C'est tout. Je veux dire que le film tourne à un moment donné à l'histoire algéro-algérienne.
Oui.
C'est ça qui est important aussi. Alors, ça aurait été intéressant de discuter avec les jeunes pour voir comment ils vivaient ce virage. Ou si c'était seulement un film de haine revancharde, ou si au contraire, ce qui était posé après, ça doit leur poser de sacrés problèmes.
Oui, parce qu'après, ils se posent la question, je conclure avec ça. Bien sûr, c'est l'histoire du FLN, et aujourd'hui, s'il y a quelque chose à critiquer aussi, c'est pas uniquement l'attitude de la France, mais aussi l'attitude du FLN à la suite de la révolution. Et qui fait que ce pays, aujourd'hui, l'Algérie, est un pays complètement sous le couvert, où les jeunes ne peuvent pas s'exprimer, et où à cause de tout ça, le fils est apparu, et les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, et qui rejaillissent sur nous, sont devenus ce qu'ils sont, alors qu'ils n'avaient pas lieu d'être. Ça, c'est une autre histoire, peut-être une autre émission, ça mérite des heures et des heures de.
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir aussi comment les Algériens le reçoivent en Algérie.
Je ne sais pas s'il sera visible. Je ne sais pas s'il ne sera pas censuré là-bas.
Non. Il a eu une sortie officielle tout à fait. Il est co-financé. Hein.
Oui.
Et une sortie officielle, et il est en exploitation dans quelques.
D'accord.
Je ne sais pas si c'est pas déjà parti.
Bien, messieurs, le masque et la plume, on continue sur la rubrique littéraire. Alors, quels livres sont arrivés jusqu'à vous, Maurice?
Oh ben moi j'en ai lu deux, hein. On en avait trois en piste, j'ai pas eu le temps de lire le troisième. J'ai donc lu le, Les raisons du doute de Gianrico Carofiglio, et puis le, La carte et le territoire de Michel Houellebecq, dont on parle partout et beaucoup en ce moment.
Oui, on a été un peu obligé retourner vers La carte et le territoire. Les raisons du doute, Gianrico Carofiglio, et, on l'a choisi parce qu'il était à Marseille.
Oui, ben, il est à la friche là, en ce moment. Oui, bon, enfin, très vite, on pourra en parler en détail. Moi, j'avoue que ce sont deux romans que j'ai lu sans déplaisir, mais dont je me dis que je ne vais pas garder grand-chose pendant longtemps. J'ai un peu l'impression d'avoir lu deux romans quand je prends le train, quoi, et que j'ai besoin de lire quelque chose pendant le trajet. J'en suis un peu à ça, alors on pourra en parler en détail après.
On va en parler en détail. Fran, Solar Picker, qu'est-ce alors, que tu as lu toi?
Ben, sur les raisons du doute, alors moi j'étais content d'avoir l'occasion de lire, on avait mis ça sous l'étiquette polar un peu, j'en lis jamais personnellement, c'est pas un genre dont je suis très très friand, donc j'aime bien avoir l'occasion d'aller de faire des entorses, ce que je fais naturellement, donc moi je l'ai dévoré ce livre, je trouve que c'est très bien, c'est très agréable, c'est très bien foutu, C'est très agréable et ça m'a énervé.
Ah bon, qu'est-ce qui t'énerve ?
Ça m'a énervé d'y prendre du plaisir. Pourquoi ? Parce que, comme tu le dis, Maurice, je pense qu'il ne m'en restera rien du tout à un moment. Parce que, voilà, on a du mal à en dire du mal. L'histoire est intéressante. L'Italie du Sud, sur fond de lutte anti-mafia, un avocat qui se retrouve à défendre un cas d'un type qui a été pris à la douane avec 40 kilos de coke dans sa voiture. Est-ce que c'est lui qui les a mis ? Est-ce qu'il est victime, etc. Donc on suit toute cette enquête, etc. Ça se lit d'un trait, hein.
Ouais,
se lit d'un trait. Par contre, pour aller dans ton sens, ça laissera pas grand-chose. Moi, ça me laisse aussi cette idée de que c'est un aimable, un agréable divertissement. C'est un divertissement. Et aujourd'hui, je me demande si c'est pas un des paramètres de ce qui fonctionne pas bien chez nous. C'est que le divertissement, et notamment celui qui a le tampon culture, je me demande s'il nous fait pas beaucoup de mal, en fait, ce divertissement. Parce que, voilà, je sais pas, dans une vie, pour un individu, dans une vie équilibrée, on sait que la vie est difficile aujourd'hui. Tout le monde a des problèmes financiers, enfin beaucoup, des problèmes familiaux, des problèmes, etc. On a besoin de soupapes de décompression, donc on a le divertissement. Le cinéma, la littérature, etc.
Ça n'empêche pas la qualité.
Non.
Hein.
Oui, mais après, quand je dis dans une vie équilibrée, moi, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait aussi la case de la curiosité par rapport à ce qui se passe et du temps qu'on prend pour essayer de comprendre ce qui se passe. Là, aujourd'hui, j'ai bien peur, et notamment avec le cinéma, quand on voit, parce que c'est le cinéma, ça marche très bien, hein, quand on voit les sommes englouties dans les productions, etc., il y a beaucoup de monde qui va au cinéma, la case divertissement, en fait, rogne terriblement sur la case qu'on devrait prendre pour être curieux de la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc moi, ça, ce livre, c'est pas le pire, loin de là, mais il me fait penser à ça. C'est-à-dire, j'en ai marre, j'ai la tête farcie, je tombe sur un bon bouquin qui m'a bien occupé la tête, et après, je vais faire dodo. Voilà, moi il me parle de ça.
Philippe, l'avocat, tu veux faire ?
Oui, enfin, indépendamment du fait que je l'ai invité, c'est parce qu'on fait une espèce de... Il y a à la fois le croisement de la résidence d'auteur de Polar qu'on fait avec les cahiers, c'était un projet que Iso voulait qu'on fasse ensemble, mais bon, il n'a pas pu le faire. Et puis l'accueil des Pouilles, la région des Pouilles. Et je trouve que moi, quand même, bon, je suis assez d'accord que c'est un polar, quoi. Mais un peu, on dit ça un peu légèrement. Mais en même temps, il y a quand même une visite dans la ville et dans la société de Bari, qui est capitale des Pouilles, qui est pertinente quand même. Là, on sent bien qu'il y a de la couche sociale super aisée. En Italie, l'inégalité sociale est au niveau de chaque ville. Hein, il y a il y a des aristocrates, enfin on a vu ça par exemple dans les films, on a beaucoup vu ça au cinéma. Hein. Les Pouilles qui est une région finalement très agricole, avec quand même des implantations industrielles fortes, mais très agricole, c'est quand même un Éden de produits merveilleux. c'est aussi un endroit où la domination de l'aristocratie italienne a été forte, et ça m'intéressait aussi de faire ce travail avec les Pouilles, soit dit en passant, parce que depuis deux mandats, la région est passée à gauche et il y a une politique culturelle volontariste que j'envie quelquefois, parce que, crise ou pas, ils maintiennent une politique culturelle volontariste et on en voit les effets. Donc nous, on a voulu aussi inviter tout ça.
C'est très amusant.
Alors, je trouve que dans l'œuvre, parce qu'il y a d'autres livres qui sont publiés, je crois que c'est son quatrième qui est publié en France, il y a aussi cette constante de cette description de cette société, quoi. Mais c'est classique des polars, hein, ça, les bons polars ont un minimum d'environnement sociologique, quoi.
Oui, mais Philippe, ce que tu nous dis là, qui est tout à fait vrai et particulièrement intéressant sur les Pouilles, tu le tiens d'autre part que du bouquin lui-même, c'est-à-dire que c'est sûrement un arrière-plan dans le bouquin, mais c'est un arrière-plan très 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 lointain. Je veux dire qu'il y a un aspect un peu intéressant de la description de Bari, mais sur du détail, la librairie de nuit, enfin des choses comme ça. Et bon, ça reste très très anecdotique. Tout ce que tu viens de nous dire là, si tu le sais pas d'ailleurs, tu le trouves pas dans le roman.
Oui, c'est vrai. Non, moi, je crois qu'il a une écriture. Pour moi, Gianrico Garofiglio est un auteur italien qui pourrait très bien être américain.
Ah oui, tout à fait.
Il a une façon d'écrire très américaine. Ça pourrait très bien se passer aussi, parce que le petit restaurant, c'est tout ça, on le trouve à New York, la librairie, on le trouve à New York. Il se trouve que c'est un homme quand même qui a 50 ans maintenant, et qui est très très en forme. Il est comme son personnage. Il fait de la boxe, il est très très vivant, instruit et surtout éduqué. Il aime beaucoup la musique. Il en parle souvent dans ce roman, et on parle tout le temps de musique américaine.
Oui, il y a plein de tics comme ça.
Voilà, c'est récurrent. Alors effectivement, je rejoins ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est un livre agréable à lire parce qu'il passe un bon moment. Moi, je le compare à une série américaine, une série télé. J'ai l'impression de voir New York Police Judiciaire, par exemple. C'est tout à fait exactement le genre de scénar. Je suis assez friand de ce genre de truc, parce que c'est pareil, quand on regarde la télé, ça vide la tête, il y a des actions, il y a des jolies femmes, il y a des ci, il y a de là. Il y a tout ce qu'il faut dans ce bouquin, il y a une jolie femme, dans du
temps. Ah oui, c'est vrai que c'est des écrivains, ils se la kiffent un peu, les écrivains de polar, ils s'inventent toujours des femmes super exotiques qui débarquent.
Non, mais elles existent, je te rassure,
ils aiment la bonne nourriture, ils écoutent la bonne musique, oui. Ils sont de gauche.
Quadra, quinca,
hédoniste, à fond.
Quadra, quinca, en bonne santé, en bonne forme, avec beaucoup de charme et de réussite dans leur vie. Mais plein de doutes. C'est le cocktail.
Je suis un peu sévère, mais je ne sais pas si ça tient à l'auteur ou au traducteur, sur l'écriture, que je trouve un peu facile quand même. Je trouve que...
C'est une traduction.
Oui, c'est pour ça. Alors, je ne sais pas très bien si ça tient à l'auteur ou au traducteur.
Déjà, le titre est mal traduit, Maurice.
Mais je trouve que... Il y a ce que tu dis, les références aux morceaux de musique qu'il écoute, qui tombent un peu comme des cling, 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 là, par-ci, par-là, pour jalonner...
Les jingles.
Voilà.
Pour étoffer.
Oui. Et puis, il y a ces...
C'est comme Ghost Dog, hein.
Oui, voilà, mais c'est bien. C'est ça. Mais par exemple, ces réflexions qu'il se fait à lui-même, les pensées du personnage à lui-même ou au lecteur.
Oui. Oui, c'est un peu systématique.
Ça devient un peu, voilà.
Ah, ouais, mais moi, j'ai trouvé que c'était très honnête, ça, de la part de l'écrivain. Hein. Ces réflexions du personnage. C'était fait vraiment de façon honnête.
Il a trouvé un truc, c'est et on bon sent truc. qu'il en va
jusqu'au bout d'un moment. C'est un truc.
Bon, c'est un auteur à succès. En France, peut-être, on n'est pas assez curieux. C'est un auteur à succès. Il a quand même vendu en tout 2 millions d'exemplaires, toutes références confondues, sur 7 ou 8 ouvrages. C'est quand même pas mal. Il a été porté 2 fois à l'écran en termes de télé-nouvelles et la prochaine au cinéma. Donc, c'est quand même.
Oui,
mais
c'est pas un critère sur le cinéma.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il connaît son affaire.
La carte de territoire de Houellebecq. Je pense que Houellebecq aussi, son objectif, c'est d'être monté au cinéma.
Oui,
Philippe,
sûr,
tu veux parler de Houellebecq?
Moi, ce livre m'est tombé 4 fois des mains, mais comme je suis sérieux et consciencieux, me suis replongé dedans.
Moi, j'ai seulement fini hier.
Je l'ai fini ce matin. Le plateforme, je n'étais pas allé jusqu'au bout. Celui-là, je suis allé jusqu'au bout. Oh, c'est de la mondanité littéraire, tout ça. Il s'amuse.
Ah, c'est très people,
Alors, il met en scène son assassinat. Oh, tu parles.
Ah, mais il se la kiffe, lui aussi, il se fait assassiner pour 2 millions d'euros pour récupérer son tableau.
Il y a un pastiche de polar, à un moment donné, il y a le flic qui apparaît. Alors, le flic, il va boire son café dans la deuxième rue, au coin, à gauche, tu sais. Les polars, ça décrit volontiers la ville. Alors là, il pastiche. Alors, en fait, il s'amuse, quoi. Il s'amuse.
Mais il nous amuse ouais, non, guère, quand
moi,
même.
Moi, ce qui m'a énervé le plus, c'est que, bon, il y a en effet du pastiche, il y a de l'autodérision, il y a des digressions, il y a des jeux de miroir, il y a tout un tas de choses comme ça. Des références faites directement dans le bouquin ou ensuite dans les interviews à Pérec, à Borges, et même à Jean-Louis Curtis. Je veux dire, moi, je suis désolé quand je lis Pérec, quand je lis Borges, et même quand je lis Jean-Louis Curtis, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de densité et d'une écriture beaucoup plus forte.
Ça atteint la pensée, quoi.
Voilà, tout à fait.
On n'insiste pas ?
On n'insiste pas, rien d'autre.
Ceci dit, Houellebecq est intéressant dans, quand il parle aussi, pas seulement quand il écrit. Moi, j'aime bien.
C'est pas un idiot.
C'est pas un idiot. Je veux dire, il a un regard parfois un peu désabusé sur la France, mais il ne dit pas des bêtises.
C'est pas des bêtises.
Après, peut-être que 300 pages, c'est trop.
Non, mais là aussi, il y a du truc. Je veux dire, il y a sans arrêt ces descriptions détaillées d'objets, de choses comme ça. Je veux dire, bon, allez, ces robes grillées, voilà, on essaye de faire un peu du nouveau roman.
C'est de la littérature. Ce que j'aime pas, moi j'ai une expression comme ça, c'est de la littérature. C'est-à-dire qu'il nous fait de la littérature, quoi, tu vois. Et ça, moi, les bouquins me tombent des mains quand je sens le type en train
de. Qu'est-ce que tu veux dire, il fait de la littérature.
Il fait de la littérature, c'est-à-dire qu'il cherche l'effet. Il fait l'effet littéraire, quoi, tu vois. Alors moi, je gagne du temps.
Non, mais ce qui n'empêche pas, il faut quand même, bon, on va pas accabler plus que ça, quoi, je veux dire. Ce qui n'empêche pas qu'il a en effet un regard assez cynique sur la société et que sa description du monde de l'art contemporain est parfois assez drôle, je veux dire, et juste.
Au début, ça fait un peu rire. Après,
moi aussi, c'est un roman que j'ai lu. Bon, j'ai eu plus de mal à le lire que le Carofiglio, ça c'est certain. Mais enfin, ceci étant, je l'ai pas lu en. Je veux dire, je l'ai lu, quoi. Voilà, j'ai pris un moment intéressant. Mais là, c'est vrai que qu'est-ce qui va rester de ce qui se raconte dans ce roman dans 50 ans, tu vois, je veux dire. Quand je pense qu'on pense à des prix, à des machins
comme
ça.
Alors oui. Alors moi, j'ai entendu à plusieurs reprises Michel Houellebecq présenté comme le meilleur. Alors comme s'il y avait un titre, je sais pas, mais le meilleur écrivain français que le monde entier nous envie. Alors, je sais pas si vous connaissez Le Masque et la Plume sur France Inter.
Ça vous dit quelque chose.
Alors, ils étaient tous à s'étaler vraiment en compliment et chacun essayait de trouver une comparaison. Et Michel Houellebecq est notre meilleur écrivain. Je veux bien le croire, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire du niveau de la littérature française ?
Tu parles de Masque et la Plume, qui est une émission intéressante, au demeurant, par bien des endroits. Mais c'est quand même un ensemble de gens qui font partie de ce milieu mondain, people, superficiel, de la critique artistique et littéraire.
Donc ça leur a plu énormément.
Donc
quoi.
Il faut...
Il y a 1000 parutions début septembre en France. On dit c'est le meilleur écrivain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire celui qui se vend le plus.
Voilà, c'est tout.
C'est le box-office qui devient critère.
C'est pareil dans la musique.
C'est ce mot-là que ils ont dit que c'était le meilleur. Ils ont dit que c'était très bien, que c'était un nouveau Houellebecq, etc. Donc ça s'est beaucoup vendu. Ce qui leur permet de dire bon, puisque ça s'appelait, que ça s'est beaucoup vendu, c'est le meilleur. On se mord la queue avec ça.
C'est clair que la critique en France est toujours à la recherche d'une coqueluche et est très contente quand ils en trouvent. Voilà, parce que ça évite pendant un bon moment d'aller être curieux, d'aller lire, voir des choses. On se contente de répéter d'émission en émission, de débat en débat, de parler toujours de la même chose. Parce que c'est tellement pratique aussi.
Moi, je suis d'autant plus irrité de ce bouquin tel qu'il est fait, parce que je pense que un des thèmes qui est dans le titre aurait pu être très passionnant. Je veux dire quoi, l'art à la place de la réalité, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, entre autres, mais
c'est pour ça que le début est intéressant, la photographie des cartes est intéressante.
Oui, mais après c'est pas traité.
Ouais, tout à fait.
Mais le titre est très ambitieux. Est très très ambitieux. Ça, c'est sûr. La carte et le territoire, ce sont deux mots très très forts en ce moment. Il est pas fou, il est habile.
Alors, François, vas-y, serre-nous à boire. On va continuer.
Je rappelle, parce que tu n'as pas rappelé le règlement intérieur, qui avait été institué dès le numéro zéro.
Oui, il y a eu un numéro zéro.
Nous sommes là avec beaucoup de plaisir pour donner notre avis sur des œuvres que nous avons vues conjointement. Mais on a rajouté donc une petite fantaisie finale, qui est de déguster un vin de notre beau pays, de Provence, et puis de donner... à l'emporter là, comme ça apporté, notre avis. Donc château... là, cette fois-ci, nous sommes au Château Paradis, qui est un domaine qui est au nord d'Aix-en-Provence. C'est un rouge 2008, cuvée spéciale du patron.
Et un vin naturel
Non, pas celui-là.
Ah, pas celui-ci.
Bon, tant pis.
Alors, rubrique théâtre, le Mamasque et la Plume, quasiment toute l'équipe a été invitée à voir une... Alors, ça joue du 7, ça a commencé le 7 octobre et ça joue jusqu'au 23 octobre. Théâtre Nono, les Nonos font leur cirque. Moi, donc, ils nous ont invités à une répète.
Moi, je ne vais pas aller le voir, j'attends que vous me donniez envie d'aller le voir. Là, je vous écoute.
Alors, on va le faire.
Alors, on va le faire. Qui veut en parler
Moi, je veux bien commencer. Alors, c'était, on est allé voir un filage, comme on dit. Donc, c'était pas le produit fini. Je crois qu'ils ont encore quelques jours de répétition et que ça
va
commencer.
Au moment où on enregistre l'émission, oui, ils vont jouer dans 2 jours.
Voilà, dans 2 jours. Donc, c'était déjà très abouti. Moi, j'ai trouvé. Moi, je pense qu'il faut pas raconter. Faut absolument pas dire ce qui se passe dedans. Mais simplement que il faut y aller. Je pense qu'il faut y aller. C'est plein. Moi, j'ai vu de la poésie. J'ai vu beaucoup de poésie par les temps qui courent. Où on sait que c'est pas forcément la raison qui va nous sauver. Je me demande si c'est pas la poésie, l'arme fatale dont on a besoin. Et ce spectacle-là, on est truffé, farci. Et donc, voilà, ça a duré 2 heures. Je pense que c'était plus long que la normale parce que c'était pas le format final. Mais on les sent pas passer, quoi. Mmh. On m'aurait dit que c'était un quart d'heure, c'était pareil. Voilà.
Philippe, toi, tu as apprécié aussi ?
Oui, enfin, moi, je mets ça sous le fait que c'est une répétition 3 ou 4 jours avant la première, que donc il y a des choses qui sont pas fixées, qui sont encore en hésitation, et puis. Des spectacles aussi physiques que ça où tu as 4 personnes dans la salle, les gens sont encore pas complètement, enfin donc c'est ça quoi, sont pas complètement investis, donc il y a cette chose qui manquait un peu, dont vous voyez il y a des grands moments poétiques de poésie formelle magnifique. Je suis plus réservé sur la poétique du texte lui-même, mais sur les images, je trouve que c'est des très très belles images. L'avant-dernière image, l'espèce d'orchestre, moi j'appelais ça orchestre d'ange, il avait l'air d'accord, avec cet artiste de cire qui est très androgyne. Mmh. Tout le spectacle, tu te demandes si c'est une fille ou un gars, il termine en ange, quoi. Et c'est assez astucieux, je trouve. Et puis l'image est très belle, il y a quelques très très belles images. Il n'y a pas des grandes performances circassiennes, c'est du cirque complètement maîtrisé. C'est un mélange où il y a à la fois les gens de chez Fratellini et l'équipe de Serge Noyel. Donc c'est un brassage assez réussi, où les comédiens jouent plutôt des rôles de clowns assez intéressants, assez multiples, assez variés, et où les artistes de cirque assument l'accompagnement de cela. C'est très brassé, on ne dit pas lui c'est un acteur, lui c'est un circassien. Il y a quelques figures remarquables, je pense celui qui porte les colombes, là, il a une gueule absolument formidable, et des petits éclairs poétiques à un moment donné quand il joue du concertina dans un petit rond de lumière. Alors je sais que le petit rond de lumière avec le type, avec un physique un peu bizarre qui joue du concertina, ça a déjà été fait un certain nombre de fois, mais là ça fonctionne quoi. Bon, c'est vrai, j'ai un petite réserve, disons c'est le côté entertainment, ce que tu disais tout à l'heure, le divertissement. Je ne sais pas trop ce qu'il veut raconter, là.
Oui, mais moi, je n'ai pas vu ça, mais Labyrinthe, qui était un des précédents spectacles, avait un peu les mêmes qualités, les mêmes faiblesses.
C'est un plasticien. Hein.
Voilà, c'est vraiment très beau sur les images, sur ce qu'on voit. C'est un peu léger ou incertain sur ce que ça dit.
Oui, c'est pas... Oui. On se dit que il n'a pas d'a priori, on dirait plutôt qu'il attend de la manifestation de la forme, qu'elle produise du sens et libre au spectateur d'en prendre ou pas. Et que lui n'arrive pas avec un propos plus élaboré que ça, sinon l'envie de développer une partie, dans le meilleur sens du terme, une partie de théâtre et de cirque en l'occurrence, qui est assez bien mené, quoi. C'est un bon pro, Serge. Il maîtrise bien la direction, la mise en scène. Mais je pense que c'est un spectacle qui va avoir un succès énorme.
Oui, je pense aussi. La mise en scène, moi, je trouve que c'est très, très bien mené. Puis il essaye de faire un lien quand même avec toutes ces petites histoires qui sont racontées. Oui. Il essaye de faire un lien général avec la femme perchée qui regarde là ces créatures humaines, animales, qui évoluent, qui essayent, qui tentent des choses. Effectivement, peut-être que ça mériterait d'être un peu plus développé,
sous la réserve que c'est une avant première, quoi. C'est même pas une avant première.
Tout à fait, oui, on a vu.
Après, il y a une histoire de rythme, etc., qui va peut-être gagner un petit peu. Et par rapport au sens là, dont tu parlais, moi je suis assez friand. J'aime bien quand ça a un sens. Mais c'est vrai que quand on est dans ce registre de la poésie, pas loin du rêve. Des fois, le sens n'est pas flagrant. Des fois, le sens, il est induit dans le rêve et on n'arrive pas toujours à le décoder. Après, le truc, c'est ce qu'on a ressenti.
Je pense que c'est effectivement ce que tu dis.
Dans quel sens ça a attiré ?
Une espèce de jubilation de la forme. Hein, il y a ça chez lui. Donc, il y a qui doit produire du sens, quoi. Qui est un peu l'arbitraire de la forme, en quelque sorte.
Oui. Eh bien, messieurs, on arrive quasiment à la fin. On va goûter le vin de pays que François nous a apporté. Santé à tous, prospérité, bonheur.
Eh bien, il est très beau, à ce qui me concerne.
Voilà, donc là, c'était Les Nonos font leur cirque. Donc, ça joue jusqu'au 23 octobre. C'est traverse de Carthage, c'est dans le 8e, c'est à côté de la campagne Pastrée. Qu'est-ce qui vous avez regardé un petit peu les programmes théâtre
On n'est pas là pour faire la pub de sa boutique, mais moi je voudrais dire que le spectacle qui est en ce moment au Théâtre de l'Anche, là je ne sais quoi, Nathalie Joly, sur Yvette Guilbert, la chanteuse Yvette Guilbert, est assez extraordinaire. Hein, je veux dire, c'est sur les chansons d'Yvette Guilbert et la correspondance qu'elle a entretenue avec Sigmund Freud. Donc, chose assez surprenante d'ailleurs, mais la comédienne chanteuse Nathalie Joly fait vraiment là un travail assez beau, qui est à la fois d'abord de la qualité de la chanteuse, de son habileté à mêler les chansons avec les lettres de Freud, et c'est vraiment un moment plus que plaisant et qui dit beaucoup de choses.
D'accord, ça joue jusqu'à quand, Maurice ?
Jusqu'au 17.
Alors, l'émission est diffusée le 16, donc
ça sera difficile.
Pour aller voir le ce soir, donc, puisque nous sommes samedi 16, ou dimanche. Eh bien, je vous remercie tous. Papé G, merci, bien, bon concert.
Redisons du bien du vin, là, qu'on vient de nous faire goûter.
Et oui, le vin.
C'est vrai qu'il éclate bien en bouche, malgré l'heure matinale.
Pour un matin,
il est très en place.
Il s'en échappe pas trop vite de la bouche.
Merci, Maurice. Donc, tu vas jouer aussi bientôt.
Fin novembre, oui. Je suis en compétition pour le Labiche, la station Chambaudet, qu'on joue à partir du 23 novembre.
Peut-être qu'on viendra.
Qui est-ce qui monte ? C'est toi ?
C'est Yvan Romain. Qui fait la mise en scène.
On viendra voir et en faire la critique dans le Mama ce qu'il y a plus.
J'espère bien, oui.
Ok. François, merci. J'espère que le point de bascule va rebasculer du bon côté.
On le saura début novembre.
Ok. Et Philippe Foulquier, merci à toi aussi. Merci à tous. La prochaine émission, c'est le samedi 20 novembre à 10h. On confirme de l'autre côté de la vitre. Merci les gars. Merci à tous. Ciao. Merci la grenouille aussi.
Après avoir gagné un concours à Star Academy il y a quelques années, en fait probablement, ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, elle revient de Londres, elle a habité à Londres durant 3 ans. Parce que c'est à Londres que tout se passe, si on veut un jour arriver à quelque chose. Elle est vraiment contente de son voyage, elle a rencontré tellement de gens importants. L'ancien guitariste des Smashing Pumpkins, le batteur de l'ancienne formation, de l'ancien bassiste de Radiohead ou The Verve, et aussi le producteur qui a été le premier à remarquer Nirvana, Pearl Jam, en fait la ville de Seattle. Un gars vraiment sympathique, vraiment drôle, un peu nerd, avec des lunettes, en fait super, super le fun. Elle a des connexions directes avec le ENR de Universal, EMI, Sony, Capitol, DreamWorks, Virgin et Naïve. While she's talking, she don't get that. Everybody just wanna leave. She just don't get that. frère, surtout celui-là avec qui elle a travaillé pendant un an, mais ils ont été obligés de laisser tomber parce que le musicien en question est parti avec sa copine faire un projet et tout est tombé à l'eau, mais ils étaient sur le point de signer avec Universal, EMI, Sony, Capitol, DreamWorks, Virgin et Naive. Fuck! Et il y a un mois, elle a rencontré ce producteur. Lui a dit qu'il était très intéressé, en fait, si elle faisait un démo. Alors, il est en train de enregistrer ce démo avec ses musiciens qu'elle a trouvé, qu'elle a mis ensemble et qui sont maintenant des complicités extraordinaires avec qui ils comprennent exactement ce qu'elle veut faire. Qui est un son vraiment particulier qui bientôt sera massive, big, on the air. Elle a réussi à rassembler ses musiciens et les intéresser à faire ce démo pour ce producteur qui attend. Everybody wants to leave. De retourner à Londres avec quelque chose en main qui montre à peu près le son qu'elle veut à ce producteur qu'elle a rencontré et qui attend des nouvelles, qui attendait quelque chose d'un peu plus développé. Et aussi de faire une pratique live avant d'aller dans un marché plus international. Elle a des centaines de chansons sur son laptop. Elle a téléphoné en fait dernièrement à ce type qui veut absolument les entendre et en fait ça n'a pas marché parce que le type a décidé de se partir un projet, je crois, de yoga à New York ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est que everybody wants to leave. Alors elle continue de parler, elle nous raconte ce type qu'elle a appelé il y a une semaine à Paris et à qui elle a raconté tout ce qu'elle avait vécu à New York, tous les gens qu'elle avait rencontrés à New York, à Los Angeles et à Londres, principalement cet ancien guitariste de l'ancienne formation des Smashing Pumpkins et ce drummer qui avait fait partie des Smiths qui maintenant fait comme une espèce de studio de punk super extraordinaire avec un son pas possible, ils ont tellement de fun. Alors le gars lui a dit, bien oui, écoutez, pas de problème, quand vous allez être à Paris, mais appelez-moi. Alors elle est en train de préparer ce démo. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. C'est pas exactement ce style-là. Et elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle le son. Elle sait exactement ce dont les gens maintenant, worldwide, ont besoin d'entendre. Elle sera un jour massive, huge, big. And she just don't get what she's talking. Everybody wants to leave.
Hey, how are you?
Hey, how are you?
Donald, yes. Fuck, man.
And you're enjoying the show, man?
It's good, yeah.